Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime, et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous êtes tout autant passionnée de True Crime. Merci de vous joindre à moi pour cette troisième épisode de l'édition Spooky Season 2024 de Crime et Cocktail. On le dit, on le redit, on apprécie tellement votre support et votre amour, et surtout, ça nous fait tellement plaisir quand vous partagez avec nous, que vous slidez dans nos DMs, que vous allez nous laisser une note de 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts ou peu importe la plateforme où vous nous écoutez. On est fatigante avec ça, mais c'est parce que ça fait vraiment une différence pour nous. Donc, s'il vous plaît, allez nous encourager, peu importe de quelle façon. On l'apprécie énormément et comme j'ai dit, ça fait vraiment une différence. Bon, maintenant que j'ai fini de faire ma fatigante puis de vous achaler avec ça, on va passer tout de suite au moment What the fuck de la semaine. Pour mon moment What the fuck de la semaine, je veux apporter quelque chose qui m'a été, en fait une question qui m'a été demandée à plusieurs reprises surprenamment dans les dernières semaines. Pour ceux qui sont nouveaux à Crime et Cocktail et qui le savent pas, avant j'étais en relation avec une femme, donc je suis bisexuelle j'imagine, et maintenant je suis en relation avec un homme, mon copain qui est l'amour de ma vie. Et je me suis fait demander à plusieurs reprises, « Ah ben là, maintenant que t'es avec un gars, est-ce que t'es encore aux filles? Est-ce que t'es encore bisexuelle? » Puis, pensez pas que j'ai été choquée de cette question-là, pas de là dire que j'ai été fâchée. J'ai juste été choquée en mode surprise de me faire poser cette question-là. Je croyais qu'il y avait eu beaucoup d'éducation, beaucoup de sensibilisation dans les dernières années. Surtout qu'une des personnes qui m'a posé cette question-là est plus jeune que moi, donc ça m'a vraiment surprise, comme je viens de le dire. Et ça m'a fait littéralement dire « what the fuck ». Et je voulais prendre ce moment-là de mon moment « what the fuck » de la semaine pendant l'épisode pour mettre en lumière toutes les personnes bisexuelles, mes confrères, mes consœurs, qui vivent tout ça eux aussi, qui se font sûrement poser la question eux et elles aussi à maintes reprises. Donc je voulais utiliser mon moment « what the fuck » de la semaine pour aborder ce sujet aujourd'hui, faire un peu de sensibilisation. Oui, les personnes qui sont bisexuelles, reste toujours bisexuelle, même si elle et elle sont en relation avec le sexe opposé qu'elle, bref. On reste toujours bisexuelle malgré tout, c'est pas quelque chose qui s'en va et qui change, et c'est pas parce qu'on est bisexuelle qu'on est attiré par tout le monde en même temps et qu'on veut coucher avec tout le monde en même temps. Loin de là, c'est une croyance populaire qui est là depuis des années et des années et des années, et je sais pas pourquoi on a de la misère à s'en défaire, mais non, les personnes qui sont bisexuelles ne deviennent pas plus bisexuelles quand elles sont en relation avec quelqu'un du sexe opposé que le leur. Donc, je voulais juste clarifier ça aujourd'hui. J'ai trouvé ça un peu... Moi, j'ai trouvé ça drôle personnellement quand on me l'a demandé. Je sais que c'est pas tout le monde qui réagirait de la même façon. Mais bon, ça m'a fait vraiment demander, ben, what the fuck, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se demandent encore ça aujourd'hui? Et voilà, le sujet est clos. On va passer maintenant au cocktail du jour. Ah, mais avant ça, non, c'est pas vrai. Je veux savoir en commentaire ou dans les DMs, les personnes qui sont bisexuelles dans les auditeurs qui nous écoutent, est-ce que ça vous est arrivé souvent de vous faire demander ça? Je me demande vraiment à quel point est-ce que les personnes bisexuelles vivent, je vais pas dire subissent, mais c'est parce que là, c'est le seul mot qui me vient en tête à l'esprit en ce moment, mais je me demande juste s'il y a beaucoup de gens qui subissent ce genre de questions-là, ce genre de comportement-là. Bref, si ça vous tente d'en parler, slidez dans les DMs. C'est juste une question comme ça que je me pose. Maintenant, on va passer au cocktail du jour. Évidemment, on continue sur notre lancée de cocktails qui fit avec l'ambiance de la Spooky Season. Pour le drink d'aujourd'hui, c'est une recette qu'on a trouvée sur Instagram et qui vient rejoindre un peu la thématique des sacs boquettes de bonbons qu'on aimait tant remplir quand on était enfant. Sauf que maintenant, on les remplit de quelque chose d'un peu plus, disons, stiff. Aujourd'hui, on boit un bucket d'Halloween. Dans le bucket d'Halloween, vous allez mettre de la glace, une tasse de cidre de pomme, alcoolisé ou non, une tasse et demie de jus de pomme, mangue et pêche, et vous allez remplir le bucket avec le seltzer de votre choix. That's all basketball, c'est pas plus compliqué que ça. C'est un cocktail qui est super facile de transformer en mocktail en remplaçant le seltzer avec de l'eau pétillante, et ben, pour ceux qui veulent garder le drink alcoolisé et veulent un tout petit kick de plus, on conseille d'ajouter un 2 onces de sirop. Selon nous, celui à la pêche se marierait parfaitement avec le reste de la recette, mais il y a tellement de saveurs différentes que vous pouvez bien y aller avec n'importe quel de votre choix. Non seulement la recette est simple et flexible, mais en plus vous pouvez la partager avec 3-4 de vos amis pendant une petite soirée d'Halloween. Et ça coûte pas cher, ce qu'on aime beaucoup dans l'économie d'aujourd'hui. Honnêtement, moi, je donne un 10 sur 10. C'est quand même rare que ça l'arrive. Surtout dans les dernières semaines, on dirait que j'ai tout le temps dit 7, 8. J'étais tout le temps comme dans la même thématique de chiffres. Mais là, je trouve que c'est super simple à faire. On dirait que tu peux pas manquer cette recette-là. Contrairement à celle de la semaine passée que j'ai mis dans la citrouille, puis quand j'ai levé la citrouille, tout mon drink a commencé à couler par terre. Là, le bucket, généralement, celui que vous achetez au Dollarama, il est censé être quand même assez étanche. Il est censé être quand même assez solide. Et en plus de ça, c'est super simple d'aller rejoindre la thématique de l'Halloween. Et tu sais, si vous voulez faire ça l'été, vous avez juste à changer avec d'autres sortes de saveurs et mettre dans un bucket de jouets de sable qu'on trouve au Dollarama. Ou si vous voulez faire ça pendant l'hiver, vous pouvez trouver une autre sorte de bucket pour le faire en mode hivernal. Bref, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je donne la note de 10 sur 10. Sur ce, Crème et Cocktail vous dit cheers et personnellement, je vous dis chin chin. Maintenant que tout ça est dit, on va passer à l'épisode spécial Zodiac du jour, qui est notre deuxième édition de la saison de La Balance. La Balance, qui est un signe d'air qui est célébré entre le 23 septembre et le 22 octobre, c'est un signe qui adore ce qui est balancé, ça le dit dans le mot. Les balances, c'est généralement des personnes qui sont connues pour leur sens de l'équilibre, de la justice et de l'harmonie. C'est souvent des personnes qui sont charmantes, sociables et diplomates, cherchant à éviter les conflits et à maintenir la paix dans leurs relations. Elles ont un fort besoin de relations équilibrées et harmonieuses, mais parfois peuvent être un peu indécises parce qu'elles pèsent soigneusement toutes les options avant de prendre une décision. Bref, n'importe qui a une balance dans sa vie peut affirmer que c'est des réels sacs à blagues, puis ils sont vraiment dotés d'un sens de l'humour hors pair. On salue tous les balances qui nous écoutent en ce moment. Si jamais vous n'avez pas écouté notre épisode spécial Zodiac, la première édition de La Balance, c'est l'épisode 49, La Bête de Bastille, qui est sur le tueur en série Guy Georges. Je vous invite fortement à aller l'écouter avant d'embarquer dans l'épisode d'aujourd'hui. Ça, ou sinon, de l'écouter par après, ça n'a pas vraiment de sens, ces deux histoires qui ne se suivent pas. Pour en revenir à l'épisode d'aujourd'hui, nos sources sont murderpedia.org, wikipedia.com et medium.com. Jeanne Weber, connue sous le surnom de l'ogresse de la Goutte d'Or, a eu une enfance et une vie marquée par la pauvreté et des difficultés personnelles avant de commettre ses meurtres. Née le 7 octobre 1874 à Quéritty, qui est un petit village de pêcheurs du nord de la France, Weber vient d'une famille modeste. Peu d'informations précises existent sur sa jeunesse, mais il est certain qu'elle a grandi dans des conditions socio-économiques vraiment difficiles, comme c'était souvent le cas pour les familles ouvrières à cette époque-là. À l'âge de 14 ans seulement, elle quitte son village natal en direction de Paris où elle tente de subvenir à ses besoins en travaillant comme domestique et d'autres petits boulots comme ça. En 1893, elle se marie à un homme nommé Octave Weber, un ouvrier, et le couple a ensemble trois enfants. Toutefois, sa vie de mère est tragique. Deux de ses enfants meurent très jeunes, ce qui pourrait avoir contribué à son instabilité mentale. Son dernier fils, quant à lui, certaines sources disent qu'il est placé en nourrice, d'autres disent qu'il reste avec elle et que plus tard elle va le tuer. Il n'existe pas beaucoup d'informations sur le cas, mais bon, on va s'en tenir au fait qu'il reste avec elle et que plus tard elle va le tuer. Son mari était alcoolique et à cette époque-là, c'était rendu que Jeanne, elle aussi, buvait également beaucoup et les deux résidaient dans un immeuble vraiment miteux de Paris. Jeanne Weber semble vraiment avoir été une femme de caractère fragile, vivant dans des conditions précaires. Les éléments de sa vie, combinés à des pertes personnelles, pourraient avoir contribué à ses comportements ultérieurs, bien que rien ne puisse totalement expliquer les terribles actes qu'elle a commis par la suite. On le dit souvent à CSC, « understanding, not excusing », donc on comprend, mais on n'excuse pas. Malgré une vie marquée par la pauvreté et la tragédie, Jeanne Weber semblait vraiment continuer tant bien que mal à avancer. Cependant, à partir de 1905, des événements inquiétants ont commencé à se produire autour d'elle. Alors qu'elle garde plusieurs enfants de sa famille, il y a une série de morts soudaines qui frappent les jeunes qu'elle est censée surveiller. Les premiers décès ont été attribués à des causes naturelles qui n'ont pas suscité immédiatement de soupçons. Par contre, au fur et à mesure que les tragédies s'accumulent, des doutes ont commencé à émerger. Les circonstances mystérieuses de ces décès révèlent une réalité bien plus sinistre et Jeanne Weber se retrouve bientôt au centre d'une enquête pour meurtre d'enfants. Tout commence le 2 mars 1905. Weber gardait pour sa belle-sœur lorsque l'une des deux filles de la femme, Georgette, âgée de seulement 18 mois, est soudainement tombée malade et a perdu la vie. Là, ce que je vais dire va choquer plusieurs, mais le médecin qui a examiné l'enfant n'a pas prêté attention aux étranges ecchymoses qu'il avait sur son cou et a conclu à une infection respiratoire et a autorisé Weber à reprendre du service le 11 mars. Ce jour-là, c'est au tour de Suzanne, la sœur de Georgette, de perdre la vie alors qu'elle était sous la surveillance de Jeanne Weber. Du haut de ses 2 ans, Suzanne n'avait aucune chance contre Weber. Le médecin a blâmé le deuxième décès à des convulsions inexpliquées et a passé à autre chose. Le 25 mars, Jeanne Weber gardait la fille de son frère Germaine, âgée de 7 ans, lorsqu'elle a soudainement été prise d'une crise d'étouffement, laissant des marques rouges sur son cou. L'enfant a survécu à cet incident-là, mais elle n'a pas eu la même chance le lendemain lorsque Jeanne est revenue. La diphtérie a été désignée comme la cause de sa mort, ainsi que celle du fils de Jeanne, Marcel, décédé 4 jours plus tard. Une fois de plus, les signes évidents d'étranglement ont été délibérément ignorés. Le 5 avril 1905, Jeanne Weber invite 2 de ses belles-sœurs à dîner. Elle va rester seule avec son neveu Maurice, qui a 10 ans, pendant que les 2 autres femmes vont aller magasiner. Par contre, elles vont revenir un peu plus tôt que prévu et vont découvrir Maurice allongé sur le lit, haletant, avec des marques de strangulation autour du cou, les mêmes marques qui ont été retrouvées sur les autres enfants décédés avant ça. Les yeux des femmes ensuite vont se poser sur Jeanne, qui se tient au-dessus de lui, et selon elle, elle avait l'air complètement folle. Son regard avait changé, elle ne la reconnaissait plus du tout. Elle disait qu'il n'y avait juste plus d'âme dans ses yeux. C'est à ce moment-là que des accusations enfin vont être déposées et le procès de Jeanne Weber va s'ouvrir le 29 janvier 1906. Le ministère public l'accuse de 8 meurtres, rien de moins, dont ceux de ses 3 propres enfants et de 2 autres enfants, Lucie, Alexandre et Marcel Poyatos, qui sont morts eux aussi sous sa garde. Il est même suggéré que Jeanne Weber aurait assassiné son propre fils pour détourner les soupçons. Encore une fois, les médecins légistes ont découvert des marques suspectes de strangulation sur plusieurs des victimes, mais on s'entend qu'on est dans le début des années 1900 et les preuves scientifiques de l'époque sont assez limitées. En plus, Weber a été défendu par le célèbre avocat Henri Robert qui a exploité l'absence de preuves formelles et la croyance en l'innocence de cette femme qui était issue d'un milieu modeste et respecté. Elle a plaidé que les enfants étaient morts de maladies ou de convulsions naturelles, soutenu par des témoignages médicaux partiaux. Le jury a été influencé par le manque de preuves concluantes et par l'habileté de la défense, donc Weber a été acquitté le 6 février 1906, malgré la méfiance grandissante de la population et des proches des victimes. 14 mois plus tard, le 7 avril 1907, un médecin de Villedieu est appelé chez un paysan nommé Bavouzet. À son arrivée, une nourrice l'accueille, Madame Moulinet, et le conduit jusqu'au lit où se trouve le petit Auguste Bavouzet, 9 ans, mort avec, vous l'aurez deviné, des ecchymoses au cou. Fâcheusement, encore une fois, le médecin conclut à des convulsions comme cause du décès. Mais heureusement, le 4 mai, il change d'avis en apprenant que Madame Moulinet n'est nul autre que Jeanne Weber. Elle engage de nouveau l'avocat Henri Robert et après avoir été détenue en attente de procès, elle est relâchée en décembre, la deuxième autopsie concluant à une mort due à la typhoïde. Pendant un certain temps, Weber va disparaître puis va réapparaître comme aide-soignante dans un hôpital pour enfants à Faucombeau avant de travailler dans un orphelinat à Orgeville dirigé par des amis qui veulent, et je cite, « réparer l'injustice subie par une innocente ». Ferme la citation. Je sais pas pour vous à l'écoute, mais moi je suis vraiment fâchée en lisant tout ça. Je trouve qu'à maintes et maintes reprises, on aurait pu faire quelque chose pour ces enfants-là, mais ça n'a pas été fait. Mais bref, je vais garder mon opinion pour moi et on va continuer avec la suite de l'épisode. À ce moment-là, Jeanne Weber va sous le nom de Marie Lemoine et elle est à l'orphelinat depuis au moins 1 semaine quand elle est surprise en train d'étrangler un enfant. L'incident est étouffé et Jeanne est renvoyée discrètement. De retour à Paris, elle est arrêtée pour vagabondage et brièvement internée à l'asile de Nanterre, mais les médecins la déclarent saine d'esprit et la libèrent. Elle sombre dans le travail du sexe et trouve un compagnon de route. Le 8 mai 1908, le couple s'installe dans une auberge à Commercy. Peu de temps après, Jeanne est surprise en train de faire quoi? D'étrangler le fils de l'aubergiste, Marcel Poirot, 10 ans, avec un mouchoir ensanglanté. Il va falloir que le père de la victime la frappe 3 fois au visage avant qu'elle ne lâche le corps sans vie de l'enfant. Accusée de meurtre et en attente de son procès, Jeanne Weber va finalement être déclarée folle le 19 décembre 1908 et envoyée à l'asile de Marieville, puis à celui de Fainville. Là, je dis folle, j'utilise le terme qui a été pris à l'époque. On s'entend qu'aujourd'hui, en 2024, c'est plus un terme qui est utilisé quand on désigne quelqu'un avec des troubles mentaux. Pendant l'internement de Jeanne Weber, son état mental va gravement se détériorer et elle a passé ses dernières années dans cet asile où elle est morte à l'âge de 44 ans d'une crise de néphrite le 5 juillet 1918. Là, il y a une source qui indique que Jeanne Weber se serait enlevée la vie en 1910 par strangulation manuelle. Je veux juste préciser que non seulement le suicide par strangulation, c'est extrêmement rare, mais Jeanne Weber est bel et bien décédée en 1918 et non en 1910. La plupart des suicides par asphyxie se font plutôt par pendaison. L'utilisation d'un objet ou d'un accessoire, c'est beaucoup plus courant. Les statistiques précises sur le pourcentage de suicides par strangulation manuelle sont très limitées parce que c'est une méthode qui est extrêmement inhabituelle et difficile à réaliser seule. Globalement, les formes d'asphyxie représentent environ 10 à 15% des suicides. La pendaison étant la méthode la plus fréquente dans cette catégorie, mais le taux spécifique pour la strangulation manuelle serait minuscule, probablement bien en dessous du 1%. Le nombre exact de personnes qui se sont suicidées par strangulation manuelle, c'est extrêmement difficile à déterminer parce que, comme j'ai dit, c'est une méthode qui est extrêmement rare et atypique. Les rapports médicaux et les études sur le sujet ne mentionnent presque jamais cette forme de suicide parce qu'elle est non seulement physiquement difficile à accomplir, mais également peu choisie par rapport à des méthodes plus courantes comme la pendaison ou l'overdose. Bref, le parcours de Jeanne Weber, c'est l'un des plus sombres de l'histoire criminelle française. Derrière l'apparence d'une nourrice aimante se cachait en fait une femme au comportement inexplicable qui a échappé à la justice lors de son premier procès avant que ses crimes ne soient finalement révélés au grand jour. Aussi, le parcours de Jeanne Weber met en lumière l'un des plus grands échecs de la justice, qui est de protéger les enfants. Malgré les avancées depuis son époque, des failles suscitent encore aujourd'hui, que ce soit en France, au Canada, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, des histoires tragiques de maltraitance, de négligence et de violence faites aux plus jeunes continuent d'émerger, rappelant que les systèmes de protection sont loin d'être infaillibles. Alors aujourd'hui à Crime et Cocktail, je me demande, est-ce qu'on peut vraiment dire que la justice a évolué ou répète-t-elle sous d'autres formes les mêmes erreurs? On vous invite à répondre à cette question en commentaire sous le post Instagram de l'épisode. On veut entendre vos opinions sur l'affaire et on a hâte de lire vos réponses. Vous pouvez aussi slider dans les DM si vous êtes plus à l'aise de faire ça. Avant de conclure, comme d'habitude, je vous laisse avec un petit teaser pour l'épisode de la semaine prochaine. On a décidé de plonger dans l'un des 13 cas fascinants du livre « Tueur de l'occulte » de Christian Page. Là, je me demande, est-ce que vous allez pouvoir deviner lequel? Préparez-vous à explorer des crimes étranges et des croyances troublantes. Restez à l'écoute parce que ça promet d'être captivant la semaine prochaine à Crime et Cocktail. Et en attendant, portez un cheers à ceux qui cherchent la vérité et un chin-chin à chaque mystère qui reste à élucider.